mafali Mama na Marco Sisse na Vincenzo Mama na Jadene na Malka Monikele
Na fanana na Nepoca Salomo za la reine de Saba Madame Samso a komi Dalila Na fima Yesu yende Marie Madala Tore Mara komi Bafana ye Bafana ye mon amour Bafana na na Nepoca Salomo za la reine de Saba
Bafana nangai, ne poka salomwa za la reine de Saba. Batangwa Samson ya komi Dalila. La film a Jésus et les Marie Madala. Na tour Alifa komi Bafana. Bafana, histoire d'amour.
Bafana nana, ne poka salomwa za la reine de Saba. Natamwa Samson a komi Dalila. Na film a Yesu et les Marie Madala. La tour El Mara a commis Bafanae, Bafanae, mon amour.
Elle qui a Isabelle Zouté na Fifi Mbale, na Judith Mikalukidi, Irène Bon Petit a Fego.
Pongi na miso na ngezo simba de chou, betwe komi boro yo bakrea po na ngaye. Sans toi na zananga moto te ho, ebi bien chérali nga kanaye melaye.
De la paix. Il est 12h. Le bulletin de midi. Jean-Claude Mabéa.
Il est 12h à Kami et à Kokrenou. C'est dans la commune de Yamoussoukro. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition. L'actualité nationale est dominée par les huitièmes de finale de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire défie le Sénégal aujourd'hui sous le coup de 20h au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Et loin de la capitale politique ivoirienne, des dispositions sécuritaires ont été prises dans le Tonkwi pour éviter des débordements avant, pendant et après la rencontre de ce soir. Nous y reviendrons. L'annexe fiscale entrée en vigueur depuis le 4 janvier dernier contient, selon la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, Pulchérie Gbalé, des mesures qui vont accroître la cherté de la vie dans plusieurs domaines, dont le transport, où désormais on doit payer 18% de TVA taxe sur la valeur ajoutée. En RD Congo, messe pour la paix à Goma, au même moment, il y avait des affrontements autour de la ville. Et notre invité de la rédaction de ce jour est Adama Sadio, enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Selon lui, il y a risque de contentieux post-électoral pour l'élection présidentielle sénégalaise du 25 février prochain. Vu que, soutient-il, le processus électoral a été parsemé de procédures judiciaires ayant au finish rejeté la candidature de certains opposants, dont Ousmane Sonko et Karim Ouad. Adama Sadio répondra à cet effet aux questions de Jean-Claude Koumé en fin d'édition. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce bulletin par la CAN 2023 où ce lundi, la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'affrontent à partir de 20h au stade Charles Konambani de Yamoussoukro en huitième de finale pour une qualification en quart de finale. Et supporters ivoiriens et sénégalais retiennent leur souffle tout en croisant leurs doigts. Mais déjà hier, à ce stade de la compétition, la Guinée-Conakry s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant 1-0 la Guinée équatoriale, ainsi que la RD Congo qui a éliminé l'Égypte au tir au but par 8-7 après un nul de 1-0 au terme des 120 minutes de jeu. Parlant toujours de la CAN 2023, mais cette fois dans le Tonkwi, comme mentionné en titre, le commissaire principal de la police de Danané, Assier Kouadio, a sensibilisé les populations à un comportement citoyen avant, pendant et après la rencontre de ce soir qui va opposer la Côte d'Ivoire au Sénégal. Témoin pour Radio de la Paix, Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkwi.
Pour ce match qui oppose la Côte d'Ivoire au Sénégal ce jour, les forces de sécurité des Danané entendent mettre tout en œuvre pour que les populations aient un comportement citoyen avant, pendant et après la rencontre. D'où cet appel du commissaire principal de la police, Assier Kouadio, face à la presse locale du département.
On leur demande d'être fair play, le respect de soi, le respect d'autrui et les règles du jeu, quel que soit le résultat qui va sortir de cette rencontre-là. Nous souhaitons que tout cela se passe dans un esprit de convivialité, prendre l'autre comme un frère, entretenir avec lui des rapports chaleureux, quelle que soit la situation.
Cela fait suite à la défaite de la Côte d'Ivoire le 22 janvier dernier. À la question des personnes susceptibles de poser des actes de vandalisme, y a-t-il des sanctions arrêtées? Voici sa réponse.
Bien sûr, le code pénal prévoit la répression pour tout trouble à l'ordre public. Alors donc, nous entendons faire respecter ces consignes-là pour faire en sorte que la ville demeure véritablement dans la tranquillité. On souhaite que les gens manifestent leur joie, on va dire de façon mesurée, leur mécontentement aussi, qu'ils sachent véritablement les manifester. Celui qui va outrepasser cela, qui va s'en prendre à des individus ou à des biens publics, véritablement nous serons là pour ramener le calme et l'ordre. Toujours est-il que nous sommes là pour les encadrer, pour éviter qu'il y ait des débordements. Donc nous les invitons au calme, à la retenue en cas de situation. Nous sommes là à leur service pour toute situation. Ils peuvent nous aviser.
Rappelons que la présence des forces de sécurité est observée à travers la ville. Stéphane Adams, Danané, Radio de la Paix.
L'actualité, c'est aussi les récentes visites de personnalités venues d'Europe, des États-Unis et de la Chine dans certains pays d'Afrique qui sont le signe que désormais le continent africain compte surtout les pays visités selon Bamba Abdoulaye, professeur d'histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody.
Je dirais d'abord que c'est une bonne nouvelle. Quand une femme est beaucoup convoitée, c'est qu'elle a forcément des qualités. Donc, ce palais diplomatique, ça montre l'état de santé économique, politique et diplomatique de l'Afrique. Puis, individuellement, chaque visite présente un intérêt particulier. En 2024, il y a le sommet Chine-Afrique qui se dessine à l'horizon. Et le ministre des Affaires étrangères de la Chine est donc passé pour consolider les acquis du sommet précédent. Pour ce qui concerne les États-Unis, pour la visite des États-Unis au-delà de l'aspect économique, il y a un volet sécuritaire avec les voisins ivoiriens qui vont à leur tête des militaires. Et à ce niveau également, il y a deux aspects qu'il faut retenir. La menace djihadiste et le rapprochement de ce pays vers la Russie, qui constitue une source d'inquiétude également pour les États-Unis. Pour ce qui concerne la menace djihadiste, vous savez que la Côte d'Ivoire et les États-Unis ont depuis quelques années renforcé leur coopération dans la lutte antiterroriste. Les deux pays ont développé ce qu'on appelle une police de proximité qui concerne la partie du 17e et 18e parallèle en Côte d'Ivoire. Vous avez l'école antiterroriste à laquelle les États-Unis participent beaucoup. Et dernier point pour les États-Unis, c'est l'aspect politique. La Russie s'est rapprochée du Mali, la Russie s'est rapprochée du Burkina Faso et du Niger. Naturellement, cela n'est pas de bon augure pour les États-Unis, qui veulent donc s'assurer que les pays côtiers, qui sont dans le viseur des terroristes, qui sont dans le viseur également de la Russie, s'assurer que ces pays-là préservent toujours leurs relations avec l'Occident, notamment les États-Unis et la France.
Le professeur d'histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, Bamba Abdoulaye, à l'instant sur Radio de la Paix. Parlons des ressources en pétrole, gaz et en or en Côte d'Ivoire. L'ITIE, entendez, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, dit veiller au grain pour la transparence dans leur exploitation et la gestion des revenus qu'elles rapportent. Selon le directeur technique au Conseil national de l'ITIE en Côte d'Ivoire, Julien Tinguin.
L'ITIE est un mécanisme volontaire qui vise à renforcer la transparence, la bonne gouvernance des revenus du secteur du pétrole, du gaz et des mines dans les pays qui sont riches au niveau de ces ressources extractives. Donc l'ITIE, si on veut résumer, est une initiative qui exige à ce qu'il y ait la divulgation au public des versements qui sont faits à l'endroit du gouvernement par les entreprises extractives et aussi les revenus que le gouvernement reçoit de la part des entreprises extractives.
En Côte d'Ivoire, où l'ITIE existe, qu'est-ce que l'ITIE a fait concrètement pour que ce secteur-là de l'extraction, en quelque sorte, soit protégé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que l'ITIE a fait?
L'ITIE élabore chaque année des rapports. L'ITIE échange avec le gouvernement, le secteur extractif, la société civile, les populations, sensibilise sur la base des rapports ITIE que nous élaborons et suscite des débats publics.
Voilà, c'était le directeur technique au Conseil national de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en Côte d'Ivoire. Julien Tinguin était en ligne avec Constant Maillet. Je le disais en titre, la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne dénonce l'annexe fiscale adoptée en décembre 2023 par le Parlement, par l'Assemblée nationale et le Sénat ivoirien et est entrée en vigueur le jeudi 4 janvier 2024. Pour Pulcheri Balé, cette annexe fiscale qui contient une TVA de 18% va davantage compliquer la vie aux populations. On l'écoute.
L'annexe fiscale comporte des mesures qui vont accroître la cherté de la vie. Par exemple, dans le domaine du transport, quand on décide que désormais les entreprises de transport de personnes et de marchandises qui ont un chiffre d'affaires qui atteint au minimum 200 millions vont payer 18% de TVA, ça c'est les populations qui vont payer, c'est pas les entreprises. Elles n'auront qu'à augmenter le coût du transport et reverser l'argent à l'État. Pour le foncier et l'immobilier, désormais, il y a une commission qui va faire les prix des loyers et même les prix de vente des biens immobiliers selon chaque zone. Au niveau de l'impôt foncier, désormais, même les terrains qui ne sont pas mis en valeur, il y a une imposition de 4% sur les ventes de tous les terrains et même les terrains qui ne sont pas mis en valeur vont être aussi imposés parce qu'avant, il y avait une exonération de 3 ans sur les nouveaux terrains nus. On veut aussi imposer une attestation de régularité fiscale dans certaines transactions, comme le contrat de bail, l'assurance automobile. Vraiment, ça fait beaucoup. Il y a la suppression de patentes au niveau des entreprises comme les Yango, les entreprises de transport. Avant, ils payaient la patente. Maintenant, c'est sur chaque course que l'État prélève 4% à la source. Ce sont des mesures autour desquelles il n'y a eu aucune vulgarisation. Ce sont des mesures qui nous surprennent. Bon, actuellement, les gens sont obnubilés par la CAN, ils ne s'en rendent pas compte, mais le réveil sera très brutal. Hein.
Et pour le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, qui abonde dans le même sens, cette TVA de 18% dans le transport est trop. C'est pourquoi Touré Adama plaide pour qu'elle soit ramenée au plus à 5%.
Il y a deux TVA sur le gasoil. On a toujours dénoncé, mais rien n'a été fait.
Et quelles sont donc les deux TVA dont vous parlez?
Il y a la TVA qui s'applique au carburant brut quand il arrive en Côte d'Ivoire. Quand il est raffiné, la même TVA encore s'applique encore sur le carburant. Donc vous voyez que ça fait deux TVA pour le même produit. Vu que le gasoil est d'utilité publique, il était vraiment souhaitable que le gasoil soit détaxé au moins par une TVA pour qu'il puisse avoir un coût plus raisonnable. Que non, le gasoil est subventionné. Il est subventionné, mais il a pour tant de TVA, nous on ne voit pas la subvention. Et encore venir mettre encore 18% encore sur le transport, vous voyez que c'est trop élevé. On peut commencer une activité, une TVA par 5%, on peut comprendre, par 2,5%. Mais on commence par 18%, comme si l'État avait déjà fini sa partition avec nous. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais de grâce qu'il fasse l'effort de nous permettre de rentabiliser notre activité, mais qu'on ne vienne pas imposer 18%, c'est trop élevé.
Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitez vous référer aux députés, mais Monsieur Touré, vous conviendrez avec moi qu'ils sont les mêmes députés qui ont voté cette loi à l'Assemblée nationale.
Et comme tous les ministres même sont députés, donc je sais que ça ne va pas donner d'effet. Il y aura forcément des conséquences dans le coût de la vie. Ça, les gens ne comprennent pas. Quand on taxe le transport, là, toute la population doit dire que vraiment il y a problème. Parce que forcément, il va y avoir des difficultés sur le panier de la ménagère, il va y avoir des difficultés sur même les consommables. Donc il est important que le transport ne soit pas taxé de la sorte.
Vous venez d'écouter le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama, et avant lui, la présidente de l'ONG Alternative citoyenne ivoirienne, Pulcheri Balé, tous deux joints par Gapiena Ouattara. Actualité hors de Côte d'Ivoire, des responsables de l'Église catholique de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi ont célébré hier dimanche à Goma, dans l'est de la RDC, une messe pour la paix. Mais des affrontements ont repris peu après autour de la ville de Goma. Plusieurs milliers de fidèles et d'habitants ont assisté à cet événement durant lequel le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, a tenu un discours critique à l'encontre des dirigeants congolais, rwandais et burundais. Il les accuse d'inciter les populations à la division et au conflit et affirme que certains d'entre eux ont intérêt à ce que le conflit continue afin de poursuivre leurs intérêts égoïstes. rapporte l'AFP. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé hier qu'ils quittaient la CEDEAO avec effet immédiat. Et cela dans un communiqué conjoint des trois militaires dirigeants ces pays élus dans la journée sur leurs différentes chaînes de télévision publique. Là-dessus, écoutons le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Par ailleurs, porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga.
Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regret, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention.
Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga. Il faut noter qu'après l'annonce de ce retrait, la CEDEAO se dit prête à une solution négociée dans un communiqué publié ce dimanche 28 janvier 2024. Place à présent à l'invité de la rédaction. Adama Sadio est enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Pour lui, c'est fort possible qu'il y ait un clash post-électoral après l'élection présidentielle sénégalaise du 25 février prochain parce que la justice s'est trop mêlée à ce processus électoral pour écarter des opposants dont Ousmane Sonko et Karim Wade. Soutient Adama Sadio qui répond ici aux questions de Jean-Claude Comé.
Adama Sadio, bonjour.
Bonjour.
La liste des candidats pour l'élection présidentielle du 25 février a été publiée donc par le Conseil constitutionnel. Quel commentaire vous faites?
Bon, ce qu'il y a à noter, c'est que le Conseil constitutionnel a publié sa liste définitive. Une liste maintenant où peut-être qu'il y a deux candidats manquants qui sont des candidats que beaucoup de Sénégalais attendaient, en tout cas qui font l'objet de beaucoup d'attention. C'est la candidature de Karim Wade, le fils d'Ablaye Wade, et la candidature d'Ousmane Sonko. Et sinon aussi, il est noté dans la liste que Bassirou Diomaye Faye ainsi que d'autres personnes qui peuvent aujourd'hui représenter, en tout cas au niveau de l'opinion, le plan B ou de l'aile de Ousmane Sonko sont retenus sur la liste officielle. Et malgré également les recours du camp du pouvoir, donc on peut dire que, en quelque sorte, que le Conseil constitutionnel a coupé la croix en deux. Autant il a rejeté la candidature de Sonko, mais il a permis également à cette opinion-là, représentative de l'opposition sénégalaise, soit représentée donc, dans la course à la présidentielle de 2024.
Pour le cas Karim Wade, par exemple, déjà au niveau du parrainage, c'était OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'argument du Conseil constitutionnel?
Oui, après la publication de la liste provisoire, tous les candidats retenus ont le droit de faire une déclaration en s'opposant à la candidature de notre candidat. Donc c'est ce que l'un des candidats de l'opposition du Nord-Ottawa, Oussama Sall, qui était avec le régime de Macky Sall, a fait une réclamation selon laquelle Karim Wade ne doit pas être candidat parce qu'il n'est pas de nationalité exclusivement sénégalaise. Et cela maintenant, c'est la Constitution en son article 28, mais aussi le Code électoral sénégalais en son article 121, qui nous disent explicitement que pour être candidat, il faut être de nationalité exclusivement sénégalaise. Maintenant, Karim Wade, en fait, avait déjà lancé une procédure de renonciation, Donc, un décret même a été publié dans ce sens-là par le Premier ministre français, mais il se trouve que les déclarations de candidature ont été faites le 26 décembre au plus tard. Donc, cela dit que une renonciation qui se fait presque un mois plus tard ne peut être prise en compte, d'autant plus que la renonciation à une nationalité n'est pas rétroactive.
Alors, quelle est donc la suite de cette affaire judiciaire ou bien cette définitive maintenant? Place donc à la présidentielle du mois prochain en février, c'est ce qu'on doit comprendre?
Bon, terminé, je ne pense pas, parce qu'en dehors de Karim et de Sonko, mais il y a d'autres candidats qui ont été calés par le parrainage. Ils ont engagé une bataille judiciaire, une bataille politique contre le Conseil constitutionnel, contre le régime actuel. Donc à cela s'ajoutent les affaires de Karim Wade, peut-être plus ou moins de Sonko, parce qu'apparemment, les soutiens de Sonko, en fait, se satisfait en quelque sorte que la candidature de Bassirou Diomaye Faye soit enfin retenue. Mais ce qui est sûr, c'est que le Sénégal s'achemine vers une élection présidentielle qui est bizarre. Bizarre pourquoi? Parce qu'une élection, un processus électoral qui est en fait parsemé de procédures judiciaires. Donc c'est vous dire que c'est une élection présidentielle qui est bizarre. Et déjà le contentieux électoral est lourd. Et ce contentieux-là risque également de poser bien sûr un autre contentieux qui est un contentieux post-électoral. Donc tout dépendra maintenant de l'issue de l'élection présidentielle du 25 février 2024.
Et ils sont 20 précisément qui ont été retenus, hein, les candidats?
Oui, ils sont 20 qui ont été retenus, mais j'ai l'habitude de dire que nous acheminons vers une élection présidentielle qui sera un peu comme une élection à l'américaine. Ils sont 20, mais ils ne sont que peu qui pèsent réellement sur l'échiquier politique national. Donc oui, le candidat de la majorité, Amadouba, l'actuel Premier ministre, mais aussi le candidat qui représente Sonko, à mon avis, le jeu va se jouer entre les deux. Et tout le reste maintenant, peut-être qu'ils seront juste là pour amuser la galerie.
Merci à vous, Adama Sadio.
C'est à moi de vous remercier. Merci.
À l'instant, l'invité de la rédaction, Adama Sadio, enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Il était interrogé par Jean-Claude Comé. Cet entretien met fin à ce bulletin, le rappel de l'essentiel. Huitième de finale de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire défie le Sénégal aujourd'hui sous le coup de 20h au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. Ainsi se referme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 15h pour un flash d'information. À présent, la revue de presse de Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Le match des éléphants de